Alors même aujourd'hui, sur la partie ressources du Christ, c'est quand même assez aussi proche des évangiles, parce qu'il y a quand même des choses dans les évangiles, mais surtout aussi dans le Nouveau Testament. Donc on va aussi parler beaucoup des lettres, notamment la lettre aux Thessaloniciens. Alors, le retour du Christ. Donc, Maranatha, notre Seigneur vient, c'est le cri qui jaillit dans les premières assemblées judéo-chrétiennes de langue araméenne. Donc, c'est pour ça que Maranatha, c'est un mot araméen. C'est le cri qui accompagne la reconnaissance du ressuscité, c'est-à-dire celui qui est là à nouveau pour revenir bientôt. C'est aussi ce qu'on dit dans les liturgies eucharistiques. Donc, dès la Didaké, c'est un document qui racontait les débuts de l'Église et donc qui précise un peu comment la liturgie se passait. Et au cœur de l'Eucharistie, quand on a la messe, dans l'anamnèse, on chante et on proclame la présence du Seigneur ressuscité jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on est vraiment dans cette thématique qui reprend la phrase de 1 Corinthiens. Et c'est aussi ce qui achève la parole chrétienne, puisque les derniers mots qui terminent à la fois la lettre aux Corinthiens, qui est un des plus anciens documents du Nouveau Testament, enfin écrit probablement assez vite après la mort du Christ, c'est probablement la première lettre ou le premier document avant les évangiles. Et puis l'Apocalypse qui se termine par « Viens, Seigneur Jésus ». Donc on est dans quelque chose qui quand même a accompagné beaucoup l'Église dès le début, après la résurrection. Et donc on a vraiment cette référence fréquente et précise. Enfin, il y a quand même des choses assez concrètes sur cette seconde venue du Christ, qu'on appelle la parousie. Donc on va parler dans un premier temps de qu'est-ce que veut dire ce terme-là et de quoi parle-t-on exactement. Et puis, dans un deuxième temps, on va parler de ce temps qui dure, puisque le retour du Christ, comme vous le savez, n'a pas encore eu lieu là, présentement. Donc, nous sommes toujours dans l'attente. Et puis ensuite, on va regarder ce que les figures du Christ, quand il y aura le retour du Christ, qui sera et comment il est présenté, en fait. Voilà, donc la première chose, c'est la parousie. Donc la parousie, c'est un mot grec qui signifie aussi bien présence que venue ou avènement. Donc il a plusieurs sens, mais ça signifie, il y a quand même cette idée de présence. Pas de problème, je démarre parce que c'est à partir. Et donc, quand on parle de la parousie, on pourrait l'utiliser pour toutes les venues du Christ, puisqu'en fait, à chaque fois, c'est une venue du Christ ou un avènement, une présence du Christ, mais on l'utilise en général pour ce retour à la fin des temps. Donc le Christ lui-même, Jésus lui-même a annoncé son retour. Donc on l'a plusieurs fois dans les évangiles. Alors il parle souvent de la venue du Fils de l'homme. Donc dans Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Donc on a cette idée de venir avec les anges dans la gloire du Père. Dans Marc, « Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc on est aussi dans cette thématique du Fils de l'homme à la fin des temps. La parousie est présentée comme un événement, donc c'est pas quelque chose de symbolique ou de théorique ou de voilà, c'est vraiment comme un événement. Et notamment quand il dit dans Jean, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi. Donc c'est très concret, il y a des mouvements, il y a du voilà, c'est du précis. Alors on n'a pas la date. Paradoxalement. Aussi, quand on a l'ascension, donc au moment où il est enlevé de la présence des apôtres, c'est le moment où c'est annoncé qu'il reviendra de cette façon-là. Donc ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc il y a cette idée on est dans un mouvement qui englobe l'ascension jusqu'au retour du Christ. Alors, il faut savoir que dans la pensée latente juive, il y avait une partie qui était sur le retour du Messie. Enfin, aussi cette idée de retour, alors pas retour, puisqu'il n'y avait pas encore le Messie qui était venu, mais cette idée du Messie qui allait venir à la fin des temps et clôturer le temps. Et notamment dans Daniel ou Ézéchiel, on a cette prophétie sur le jour du Seigneur, quand Dieu rendra justice à son peuple. Alors, le retour est annoncé pas forcément très, très paisible. Hein. Ça a l'air d'être un déferlement de violence. Jésus prédit guerre, famine, tremblement de terre et détresse. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur. dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Donc c'est quand même un chamboulement, en tout cas un bouleversement, qui est annoncé et et que le Christ lui-même annonce. Alors dans la première aux Thessaloniciens, notamment dans le passage, c'est surtout en Thessaloniciens 4, ça décrit un petit peu comment ça va se passer. Donc on reprend beaucoup d'images de ces prophéties juives. Donc la lettre dit « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, de même nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Donc on a qui était une des la façon dont les Juifs voyaient les choses. Il y avait deux façons de faire. Soit c'était on parlait juste de soit en deux temps comme là, la résurrection, et puis ensuite il y a la transformation, quelque part la nouvelle terre, et du coup le règne de Dieu. Soit c'était plus mélangé, enfin tous ensemble. Mais là c'est plutôt cette version là qui est tenue. Donc ce que voulait dire à saint Paul aux Thessaloniciens, c'est en fait qu'on soit vivant, qu'on soit mort, de toute façon, on sera égalité à ce moment-là, puisqu'il y aura comme une résurrection des morts d'abord, et puis ensuite, tout le monde est emmené avec le Christ au ciel. Voilà. Et il y a cette idée, donc on est toujours avec les thématiques juives, hein, tout ce qui est autour de la trompette divine, la voix de l'archange, les nuées du ciel, etc. Et puis il y a cette mention, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur, qui est quand même, qui décrit aussi la réalité de ce qui est attendu de cette fin des temps, qui n'est pas juste d'un jugement, mais aussi d'être avec le Seigneur. Voilà. Et donc on peut reprendre des choses qui étaient déjà combinées dans même l'Ancien Testament, avec la descente du Christ comme Dieu qui descend des cieux sur le Sinaï. Donc il y a cette idée de Dieu s'approche de la mer, et ensuite de la montée de Jésus comme Moïse au Sinaï, ou le fils de l'homme de Daniel qui monte vers Dieu. Donc on est bien dans les deux mouvements. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de retour du Christ, c'est qu'il y aura de nouveau ce mouvement de retourner vers la terre et de remonter au ciel. Alors dans 1 Corinthiens, on a un peu la même idée. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. Très bien ordonnancé. En premier, le Christ. Alors en premier, là c'est traduit en premier, mais c'est même en prémisse. Donc une autre forme de traduction pourrait être dire comme s'il y avait un acompte. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Donc on est aussi dans la même idée de ce mouvement où le Christ a introduit les choses, et puis il y aura la deuxième partie, le retour du Christ pour le royaume. Donc là on a vraiment tout ça est très ordonné, avec chacun à son rang. Et puis ceux qui sont avec le Christ. Donc voilà. Dans 1 Corinthiens, il dit aussi, donc il parle de la thématique, c'est pas seulement la résurrection, donc on n'est pas juste à une remise en ordre, remise au niveau il y avait la mort et c'est pas ce qui était voulu, et donc la mort est annulée par la résurrection, mais il y a cette idée de transformation. Donc c'est ce que nous dit 1 Corinthiens. C'est un mystère que je vous annonce, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin la trompette retentira, toujours les mêmes thématiques, car elle retentira et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Donc c'est non seulement une idée de résurrection, donc pour les défunts, mais aussi cette idée de transformation qui est cette entrée, cette divinisation, entrée dans la gloire du Seigneur. Alors, ce que nous montre effectivement cette façon de présenter la fin des temps, c'est un avènement du royaume, donc du royaume voulu par Dieu. Et c'est ce que nous montre surtout l'Apocalypse. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. C'est Apocalypse 21. L'ancien monde s'effondre et c'est douloureux à l'image d'un accouchement. Donc là, on reprend les thématiques. C'est pour ça qu'il y a des choses terribles et au début, là, sur les gens qui ont peur et le tremblement de terre, etc. C'est, voilà, il y a quelque chose de douloureux parce qu'on est, c'est un point de passage. Mais c'est une perspective profondément heureuse, car ce sera l'accomplissement définitif du règne de Dieu sur terre. Le Christ dans la gloire viendra clore l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Donc il y a cet avènement du royaume, en fait, qui est à la fin des temps, et ça va introduire ma deuxième partie, mais qui est déjà aussi dans ce temps-là, après la résurrection. Enfin, on a déjà des idées de ça quand on regarde ce qui se passe après la résurrection pendant les 40 jours. Où Jésus nous montre que nous ne sommes pas faits pour vivre simplement comme des créatures vivant sur cette terre, mais que nous sommes invités à vivre filialement dans un monde nouveau, un monde qui est au-delà de celui que nous connaissons, un monde à venir qui achèvera ce qu'il y a de bon dans notre monde, ce monde des relations parfaites. Et ce glorieux événement constituera l'aboutissement du plan de salut, puisque dès lors nous serons pour toujours avec le Seigneur, donc toujours la même thématique, qui est le royaume. Le royaume, c'est d'être toujours avec le Seigneur. Et c'est cette promesse que Jésus a faite, qui est « Je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Et donc ce royaume, il est à la fois à la fin des temps, mais en même temps, il y a déjà quelque chose qui démarre avec dès la résurrection du Seigneur. En fait, c'est un seul mouvement. Et donc Jésus, en attendant son retour dans la gloire, accepte d'être l'homme-Dieu vivant en Dieu pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Et donc comme s'il y avait un morceau du monde, de notre monde, qui était capable de supporter la vie de Dieu lui-même, ou même d'avoir quelque part une partie de ce qu'on est en Dieu. Voilà, ça on le verra dans la troisième partie avec la notion du corps de Jésus. Donc quand même, quand on regarde ce temps, donc quand on regarde toutes ces prophéties et ce que nous dit le Nouveau Testament, on se dit bah, pourquoi il y a tout ce temps-là, pourquoi 2000 ans après, on est toujours entre l'ascension et le retour du Christ. Voilà. Alors pourtant, dans certains passages dans les évangiles synoptiques, il y a des passages qui nous laissent aucun doute sur l'imminence de la parousie. Donc je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. On l'a dans les trois synoptiques. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors ça peut être interprété cette phrase de deux façons, le retour du Christ ou déjà la première venue du Christ, mais quand même, l'impression que voilà, il y a l'imminence. Et puis quand il dit en Matthieu, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Or, c'est lui qui parle, donc je ne parle probablement pas de sa venue, mais de la venue d'après. Donc il y a quelque chose qui paraît imminent. Et dans ses lettres, Paul se fait l'écho de cette conviction. Frère, je dois vous le dire, le temps est limité. Du coup, c'est là où il conseille de ne plus user de ce monde, de ne pas se marier, etc. Parce que pour lui, ça n'a pas duré longtemps, donc ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète sur Terre. Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Bon, ça, c'est vraiment vrai tout le temps, de toute façon. Mais la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres de ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Et puis, dans Philippiens, le Seigneur est proche. Donc, il y a quand même cette idée d'imminence du retour du Christ. Alors, il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament qui laissent plus l'impression qu'il y aura du temps. Voilà, sans pour autant préciser ce que ça veut dire. Notamment toutes les paraboles, donc la parabole du grain de moutarde, on voit qu'il y a ça prend du temps, le levain, ça prend du temps, les vignerons homicides. Il y a plusieurs fois, voilà, ils envoient leur fils et puis il se passe encore une autre fois. Et dans les épîtres de saint Paul, on a aussi cette idée de parousie et donc de fin du temps et de jour du jugement qui sont une seule et même attente et qui sont positionnées quand même un peu plus lointaines. Et pareil dans l'Apocalypse. Donc Paul, il envisage quand même qu'il va mourir. Donc il n'y aura pas le retour du Christ avant sa mort. Quand il dit « Je me sens pris entre les deux, je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. » Et dans 2 Corinthiens, « Oui, nous avons confiance, nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. » Donc c'est à contrario, le fait qu'il s'imagine qu'il va probablement mourir et pas forcément il n'y aura pas le retour du Christ juste avant. Donc, c'est un peu en filigrane, c'est pas complètement clair, mais on peut l'interpréter comme ça. Alors, en fait, une fois qu'on a passé 70, la destruction de Jérusalem, etc., du coup, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et dont la deuxième lettre de Saint-Pierre fait écho. Sachez d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, allant au gré de leur convoitise en disant « Où en est la promesse de son avènement ? En effet, depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. » Là, on a typiquement la question de se dire « Bon, bah, en fait, ça n'a rien changé, et le temps court, et il ne se passe rien. » Voilà. Donc, il y a, à partir de 70, on voit qu'il y a quand même cette idée de patience, et que, okay, il y a le retour du Christ, donc ça, déjà, on y reste attaché, mais ce n'est pas si sûr de quand ça va devenir. Frère, donc il y a toutes les thématiques autour de la patience, notamment dans les épîtres de Jacques. Frère, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche, mais en même temps, prenez patience. Et donc, on a cette attente qui reste là, mais il faut attendre, voilà. Donc, garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne dit pas que ça va être immédiat, on ne dit pas que ça va être dans très longtemps, mais il y a ce temps d'attente qui commence à s'installer, ce temps d'espérance. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quoi je l'ai remis là, mais c'était plutôt avant. Dans Corinthiens, on est plutôt sur une fin qui viendra immédiatement ou après une durée de 1000 ans. Donc ça, dans l'Apocalypse, il y a cette notion de durée de 1000 ans, mais qui est que dans l'Apocalypse. Dans tous les cas, on n'a pas une date qui serait reportée sine die. Donc c'est pas juste on est pareil, on est dans l'événementiel. Enfin, il y a des choses concrètes qui vont se passer. Donc il y a une heure, même si Jésus... Personne ne le sait, et Jésus non plus. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. N'empêche qu'il y a une heure, il y a un temps et il y a un moment précis où ça va se passer. Voilà. Alors, en fait, on a essayé, notamment Saint-Pierre, mais d'autres ont essayé d'essayer de comprendre pourquoi cette attente et pourquoi ça se passe. Je suis très focalisée sur le Nouveau Testament, mais il y a plein de textes depuis et de gens qui ont réfléchi au sujet. Donc, ce qu'on voit, c'est que Étienne, en fait, dans sa vision, il voit déjà le début de la parousie, en fait. Puisque quand il est rempli d'Esprit Saint, il fixe le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ». Donc, il est exactement dans la vision de la fin des temps. Or, Étienne, c'est juste c'est le tout début de l'Église. Donc, il est déjà comme s'il était mis en présence de cette parousie. Et donc, c'est juste une question de temps, mais elle est là. Et en fait, ce qui est mentionné par notamment les de Saint-Pierre, c'est que il faut qu'il y ait des conditions. Donc, en fait, la question n'est pas tellement l'heure et quand ça va avoir lieu, mais qu'est-ce qui fera qu'on pourra atteindre la fin du monde, en fait. Donc, c'est plutôt les questions, les conditions qui sont explicitées. Et c'est ce que Saint-Pierre nous dit quand il dit « Vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Donc en fait, quand on vit dans la sainteté et la piété, on hâte l'avènement du jour de Dieu. Et inversement, quand on se compromet avec les antichristianismes, on retarde le jugement. Donc ce temps-là n'est pas juste un temps de Dieu, il est aussi un temps de notre côté, un temps de conversion, en fait, et qu'il y a notre liberté et à notre ancrage dans une histoire, dans l'histoire, dans le temps. Saint-Pierre nous dit aussi dans sa deuxième lettre, « Bien-aimé, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. » Donc là, il prend bien la thématique, le temps, il est de notre côté, il n'est pas du côté de Dieu. Et Dieu, il est à temps, au-dessus du temps, à temps, enfin, 100 ans, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, il est pas dans le même registre. Et c'est donc nous qui avons cette notion du temps. Donc, il mentionne ça. Et puis, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et donc, là, c'est le thème de la patience de Dieu qui, en fait, veut nous laisser le temps de la conversion et il veut qu'il y ait le maximum de gens qui soient à ses côtés. Voilà. Et donc, du coup, la question n'est pas du côté de Dieu qui est tard ou qui... Voilà. Elle est de notre côté. Comment est-ce que... on fait avancer les choses et que du coup il y a quelque chose qui se déclenchera de notre condition. Alors, je voulais aussi revenir sur le fait qu'il y a déjà du temps entre la résurrection et la Pentecôte. Donc on n'est pas non plus dans l'immédiateté où tout s'enchaîne. Donc on n'a pas la résurrection et l'ascension qui se recouvrent. Donc c'est toute la thématique, ne me retiens pas car je ne suis pas encore montée vers le Père, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, ce que dit Jésus à Marie-Madeleine. Et du coup, il y a cette notion de voilà, il faut qu'il y ait un temps qui se passe jusqu'à ce qu'il monte vers son Père. Donc ces 40 jours sont à la fois un temps de pédagogie, parce qu'on voit bien que les disciples ont mis du temps à reconnaître Jésus ressuscité, à l'accepter, à tout ça. Donc il y a ce temps pédagogique pour qu'ils aient le temps de se fortifier comme témoins. Mais il y a aussi le monde nouveau qui s'introduit dans le monde actuel. Et donc on a comme une montée progressive, comme si le Christ, dans son nouvel état de ressuscité, ça avance aussi. Donc lui aussi, il gère du temps. Avant d'être glorifié complètement dans l'ascension. Et c'est dans la foi qu'on a cette vision à la fois de chaque événement individuel, donc la résurrection et l'ascension, qui sont deux moments séparés, mais aussi le fait que tout est ensemble et qu'en fait il y a à la fois cet ancrage historique qui est vraiment de l'incarnation, et donc Jésus il a assumé le temps, et donc ça se déroule dans le temps, et en même temps il est vrai Dieu, et donc il y a quelque chose du dessein de Dieu qui s'accomplit, même s'il se déroule dans des événements. En fait, voilà. Et donc, il y a cette notion de temps qui n'est pas du tout la même avec les yeux de la foi. Voilà, c'est ce que je dis là. Ça veut dire que certains événements ayant eu lieu dans le temps et l'espace de ce monde-ci portent tout le poids de l'éruption du monde nouveau. Sans doute, ces événements débordent-ils notre histoire ? De la même façon qu'après la résurrection dans les 40 jours, il déborde aussi un peu la notion d'espace, puisqu'il arrive à être à deux endroits en même temps, ou à franchir les portes, etc. Donc il y a une sorte que ça déborde notre espace et notre temps, mais ça reste l'initiative de Dieu, elle a quand même pris place dans le registre phénoménal qui est le nôtre, et donc ça reste avec du temps et avec de l'histoire. Voilà. L'autre thématique sur ce que nous montrent ces 40 jours, et c'est pareil entre le temps entre l'ascension et la Pentecôte, parce que de nouveau on a 9 jours, quoi, c'est pas non plus immédiat, c'est qu'on n'est pas dans un processus mécanique où une chose en déclenche une autre. Et donc on a quelque chose qui est pas du tout de cette donnée-là, mais qui est plutôt de la manifestation des relations trinitaires. On a un jeu de réponse. Voilà, il y a le Christ qui se donne à la mort, et puis le Père qui répond par la résurrection. Et du coup, on a ce jeu d'intervention et qui change, qui fait que voilà, il y a du temps entre les deux. On n'est pas juste dans un enchaînement mécanique et dans quelque chose qui se déclencherait et qui est voilà, on est vraiment dans quelque chose qui est lié à l'amour et pas à la relation et à la vie trinitaire. Et de la même façon, entre l'ascension et la Pentecôte, ça laisse le temps à une troisième personne, qui est l'Esprit Saint, d'intervenir et de jouer de son rôle en insufflant l'Esprit aux apôtres. Et donc on a ce temps-là, il est aussi non seulement pédagogique pour qu'on ait le temps de se remettre et de s'ancrer dans les choses, mais aussi pour bien montrer que il n'y a pas des enchaînements mécaniques et qu'il y a vraiment ce dialogue en fait à travers les événements. Voilà. Et donc ce déjà là et pas encore, ça veut nous dire qu'il faut veiller, donc il faut être dans l'attente. Voilà, comme nous disait Jacques. Soyez comment il disait soyez patient, la patience. Voilà. Donc Christ est vivant, il est là d'ailleurs, et donc l'avenir reste ouvert. On a ce qu'on attend de la parousie, c'est vraiment l'explicitation, la révélation plénière de la dimension eschatologique de la résurrection du Seigneur, donc comme un accomplissement de la résurrection du Seigneur. parce qu'elle elle l'accomplit au niveau du cosmos. Et le ressuscité dont nous proclamons la présence à l'Eucharistie est à la fois Jésus le crucifié, et en même temps on ne refait pas la crucifixion, et le Seigneur que l'on attend toujours. Et c'est la phrase qu'on prononce à l'anamnèse, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Et à la fois Jésus, il est toujours là, puisqu'il dit « moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais il y a comme un accomplissement, donc tout est accompli dans la résurrection, tout est là, mais il y a un accomplissement qui petit à petit embrase tout le cosmos et qui du coup va être plaigné quelque part dans ses effets à la fin des temps. Et donc les chrétiens, bah, ils sont dans cette position d'espérance. Veillez donc car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Et c'est un combat pour qu'on habite dans ce monde, qui est l'ancien monde en fait, mais qui est déjà imprégné un peu du nouveau monde, et notamment quand on est à la messe ou par des convies, comme le dit Saint-Pierre, en chrétien plus d'un disciple du Seigneur. Et donc on est déjà dans ce « déjà là » et dans ce « pas encore » où on doit vivre dans cette espérance, et à la fois on sait que c'est vrai, quoi. C'est pas juste l'espérance pourvu que ça advienne, mais c'est l'espérance que ça va advenir. Et c'est juste ce temps d'attente qui doit nous occuper. Donc c'est la veille. Alors le Christ, comment il est présenté au retour? Donc déjà, je trouvais ça important de mentionner qu'on a parlé tout à l'heure à l'adoration de la corporalité de Jésus ressuscité, que voilà, les apôtres qui doivent toucher pour croire, enfin, avec c'est un vrai, c'est pas un esprit, mais c'est un vrai homme avec son corps. Et donc, on a on a parlé du temps, mais il y a aussi cette notion d'espace, et donc le corps, c'est aussi ça. Et donc, Jésus a vécu pendant 40 jours sur notre terre, en fait, dans cet ancien monde. Et apparemment, c'est la volonté de Dieu, donc c'est pas juste quelque chose qui a foiré quelque part, c'est vraiment sa volonté, et c'est voulu. Et il a expérimenté donc dans sa psychologie, dans son corps, la plus parfaite communion qui puisse exister entre la créature et son Dieu. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il est vraiment le premier-né de toute créature, puisqu'il est le premier-né de toute créature nouvelle, en fait, enfin, dans cette nouvelle configuration. Donc on n'a pas un Christ glorieux qui s'évapore dans l'éternité, l'immensité divine, là, qui devient un pur esprit. On a il garde cette structure spatio-temporelle qui est liée fondamentalement à notre condition de créature corporelle. Et donc l'ascension épanouit le caractère unique de la résurrection du Christ en plaçant le Christ très au-dessus de nos conditions d'existence. Donc effectivement, il n'est plus sur Terre présentement comme nous. Mais il est dans le nouveau monde quand même avec notre condition humaine. Et on peut penser qu'effectivement, quand Saint Paul parle d'un corps spirituel, il pense qu'effectivement, la matière au contact de l'esprit divin est déjà pénétrée d'esprit étant à l'esprit, devient beaucoup plus facile de concevoir que grâce à l'action divine, le même corps puisse revivre sous une forme en quelque sorte sublimée. Et du coup, dans ce nouveau statut, c'est moins le corps qui conditionne l'esprit que l'esprit qui conditionne le corps. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on peut parler de corps spirituel et qu'on peut comprendre aussi comment Jésus... les apôtres avaient du mal à reconnaître Jésus. Voilà, c'était pourtant bien lui, mais il y avait cette dimension spirituelle qui était encore plus évidente. Un peu comme à la transfiguration qui pouvait être un prémisse. Et puis ce que dit aussi, c'est par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité ou celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu est consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. C'est ce que nous dit Saint Jean Damascène. Et donc il parle vraiment de corporellement. Donc la glorification et l'exaltation à la droite du Père ne ramènent pas Jésus au sein de la Trinité après une sorte d'excursion. Donc on n'est pas dans la thématique des dieux grecs là qui passaient leur temps à prendre des formes humaines, voilà, mais puis après qui redevenaient je sais pas quoi, pas du tout. Donc là, il y a une vraie conséquence, c'est que il ramène dans le corps qu'il a reçu de la Vierge Marie, de sorte que son humanité également se trouve associée à la gloire de sa divinité. Donc le Verbe de Dieu qui a pris la condition humaine en Jésus de Nazareth retourne auprès du Père avec cette même condition, qui reçoit ainsi sa glorification. Puis là, quand on dit à la droite du Père, ça peut paraître un peu bizarre pour la droite, etc. Mais c'est parce que c'est un vrai corps, donc il y a une place, il y a de l'espace, il y a quelque chose, même si le Père, lui, n'est pas de même nature. Mais voilà, donc ça montre aussi ça. Donc il y a une vraie corporalité dans la vie divine, Et donc maintenant, il y a un corps humain en Dieu. Et du coup, c'est en ça aussi que nous, on pourra participer à ce monde invisible et mystérieux de Dieu grâce au Christ qui lui-même est déjà un corps en Dieu. Alors, une deuxième figure que le Christ aura, c'est le roi de l'univers. Donc, celle-là, elle est plus classique. Donc, ce qu'on dit Apocalypse, il règne le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. On a aussi tous les thématiques sur Jésus-Christ est Seigneur. Et il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté, car le Père a tout mis sous ses pieds. Donc, on est bien sur le Christ qui est Seigneur du cosmos et de l'histoire, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique. Donc, il partage désormais définitivement la gloire du Père. Donc, entrée irréversible de son humanité dans la gloire divine, symbolisée par la nuée et par le ciel, où il siège désormais à la droite de Dieu. Et donc, c'est comme une intronisation royale, comme si on se rappelle les visions de Daniel 7 ou du psaume 110. Voilà, il y a cette idée d'intronisation du roi. Dans la mosaïque qui est là, on voit l'agneau qui est posé sur les genoux et qui est donc sur un trône en fait. Voilà, donc on a bien le Christ roi. D'une gloire voilée manifestée par des épisodes discontinus, l'ascension nous fait passer à la contemplation de la gloire stable définitive qui est un attribut du Dieu révélé. Cela est exprimé par la formule à la droite du Père. Donc on avait déjà le Christ qui était roi sur la croix. Et d'ailleurs, c'est un peu la polémique de toute la Passion. Mais on voit que c'est une royauté différente et que c'est que à la fin des temps et à son retour, finalement, qu'on va pouvoir comprendre cette royauté. Voilà. Et c'est ce qu'il dit à Pilate quand il dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». C'est qu'il y a bien ce côté, cette royauté, ce Christ roi, il ne sera qu'à la fin des temps pour l'être pleinement de tout le royaume. Et le bon larron, ils ne seront pas parce qu'il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Donc le bon larron, il a tout compris. Je ne sais pas, il y avait une catéchèse éclair. Parce qu'il a compris qu'il allait revenir et qu'il y aura un royaume. Donc il est très... Et qu'il aura une place dans ce royaume. La sonalité du Christ aussi, roi de l'univers, donc qui a été introduite, je ne sais plus en quel siècle, mais c'est 14e ou 16e, je ne sais plus. Bon, ça, j'ai perdu la date. Ça, c'est pour rappeler, parce qu'initialement, il y avait une fête du Christ roi de l'univers, mais qui était plutôt fin octobre, je crois, et qui a été déplacée pour clôturer le cycle liturgique, avant de reprendre une année en commençant par l'Avent, pour bien manifester que c'est ce Christ roi de l'univers de la fin des temps, où là, il a la royauté pleine et entière, où on a où le Christ est principe et fin de toute chose. Il est l'alpha et l'oméga, donc on est exactement dans cette thématique-là, l'oméga en l'occurrence. Voilà, et Dieu appelle à partager l'homme à partager aussi cette fin, cette réalité glorieuse et éternelle qui est sa vraie destinée. Le Christ, il est roi d'un royaume, donc voilà, et on fait partie du royaume en fait. Il y a des gens. Une autre thématique qui représente le Christ roi de l'univers, c'est le Christ Pantocrator. Donc, ça, c'est plutôt dans la tradition de l'art byzantin. En fait, Pantocrator, ça veut dire Pantou et Kratos puissance, donc qui est bien ce thème de tout puissant. Et qui est bien le Christ roi aussi. Et d'ailleurs, il est représenté dans les icônes dans les mosaïques des basiliques. Il est assis sur un trône de gloire et il tient dans le livre des Saintes Écritures dans la main gauche. Et de sa main droite, il esquisse un geste de bénédiction avec deux doigts tendus qui symbolisent sa double nature. Et puis trois doigts repliés, joints, qui symbolisent la fête de la Trinité. Donc, c'est les deux dimensions. J'ai appris ça au passage, donc je vous le livre. Et donc, on le représente bien comme vraiment en majesté et en donc roi de l'univers. Voilà, et donc, il est tout puissant et il est bien souverain maître de toutes choses. Voilà, et on l'associe vraiment au Père, tout puissant et créateur du ciel et de la terre. Et donc, on est bien sur « Je suis » dans la Bible, les deux phrases « Je suis celui qui est », donc la révélation du nom de Dieu, à Moïse au buisson ardent, et puis qui me voit mon Père, que nous dit Jésus, on est bien là dans le Pantocrator, qui, quelque part, il a cette double figure, fils de Dieu, fils de l'homme. Alors, une autre figure du Christ, qui est aussi assez connue, c'est le juge des vivants et des morts. Donc, c'est ce qu'on dit dans le credo, hein, nous affirmons que le Christ il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc là, on voit bien que le credo ne se prononce pas trop sur est-ce qu'il y aura déjà des... Est-ce qu'il y aura les vivants d'abord, les morts d'après, enfin voilà, donc pour juger tout le monde. Voilà. Lorsque du haut du ciel, le Seigneur Jésus se révélera avec les anges, messagers de sa puissance dans le feu flamboyant, alors il fera justice contre ceux qui ignorent Dieu et à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est dans la deuxième de Thessalonique, aux Thessaloniciens. Donc, on a aussi ce jugement. Il fera justice. Et donc, on aura, lorsque les croyants paraîtront devant le Christ, la valeur de leur vie chrétienne sera examinée par le Christ et éprouvée. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de lettres. Mais c'est ce que Jésus avait lui-même annoncé quand il parle dans la parabole du jugement dernier avec la séparation des brebis et des boucs. Vous savez, tout ce que vous avez fait un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait et vous ne l'avez pas fait. Et voilà. Donc, c'est le jugement sur ce qu'on aura, quelque part, la valeur de notre vie chrétienne. C'est pas pour ça, dans ces jugements, donc on a une notion de jugement qui est très liée à notre tribunal pénal classique chez nous, mais en fait, c'est pas, y a pas de remise en cause du salut, c'est-à-dire que c'est pas un jugement au sens à droit, à pas droit, mais c'est faire action de justice au sens ajustement à Dieu, et donc quelque part, c'est reconnaître aussi qu'on veut, puisqu'on a parlé du royaume, le Christ qui est roi de l'univers, et que le royaume, c'est d'être avec lui, le jugement, c'est aussi de se dire, est-ce que je veux être avec lui? Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Donc, on se juge aussi. C'est notre vie qui nous juge aussi. C'est ce que dit Jésus dans Marc 8, là. « Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ça, c'est bien, il y a quelque chose de cohérence, c'est que ce n'est pas juste un jugement au sens « c'est bien, c'est pas bien », mais c'est au sens « attachement au Christ ». Jésus ne prend personne en traite, la confrontation avec l'évidence de la lumière n'est juste, et donc possible que si d'une certaine manière, tous les hommes de ce moment-là ont déjà pris position pour ou contre lui. Donc, on est bien dans cette thématique de « pour être avec moi », enfin, c'est ce que nous dit Jésus. « Le jugement fera apparaître alors ce qui doit l'être. Il faut que tous ceux qui doivent se convertir aient eu le temps de le faire, et inversement pour ceux qui refuseront de se convertir. » C'est un peu la manière biblique de parler, mais il y a cette idée de que c'est une question de justice au sens ajustement à Dieu. Dans l'Apocalypse, on dit « Voici, il viendra au milieu des nuées, tout œil le verra, et ceux-là même qui vont... transpercé, toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Donc il y a ce jugement qui est transpercé, donc on est vraiment sur un jugement quand même assez sévère. On reprend aussi des thématiques sur un peu de la violence des derniers temps. Et la condition à la fois centrale et ultime pour qu'il revienne, c'est la prise de position par rapport à Jésus. J'ai déjà dit, donc voilà. Dans l'Apocalypse 19, on nous décrit « J'ai vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte, c'est Jésus, s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. » Donc on a bien jugement, mais aussi fait la guerre. Donc il y a quelque chose de combattre aussi le mal. De sa bouche sort un glaive acéré. Donc, toujours la thématique de la... À la fois guerrier, mais à la fois glaive acéré. C'est ce qui tranche entre le vrai et le faux, entre le bon et le pas bon. Donc ou la lumière et les ténèbres aussi. « Pour en frapper les nations, lui-même les conduira avec un sceptre de fer. » Thématique du roi, lui-même foulera la cuve du vin de la fureur, la colère de Dieu souverain de l'univers. Donc dans cette vision d'Apocalypse, on a bien un Jésus qui est à la fois guerrier, mais en même temps qui laisse le temps et qui conduit. Lui-même les conduira avec un sceptre de fer. Donc il y a cette idée, on est guidé, on n'est pas tout seul. Et puis la dernière vision, qui est peut-être la plus... la plus heureuse, on va dire. Le Christ époux de l'Église. Donc, c'est la notion des noces. Donc, je ne vous ai pas parlé du banquet. On aura pu aussi, mais bon. Voilà. Donc, c'est le Christ qui est l'époux de l'Église. Et donc, il célèbre ses noces avec l'Église, son épouse. Donc, car elles sont venues les noces de l'agneau. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. C'est toujours dans Apocalypse 19. La ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. Donc ces noces représentent une union complète, indissoluble, éternelle avec le Christ. Donc une alliance de Jésus-Christ, son Église, qui participe à sa gloire. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, donc à la fin des temps, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. C'est notre façon de dire, là comme dans un couple, on n'est plus qu'un. Et donc on ressemblera, on, On restaure l'image, la ressemblance avec, avec Dieu. Et dans la liturgie, qui reprend Apocalypse 19:9, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, c'est ce qu'on dit à chaque messe. Et voilà, il y a un côté heureux. C'est un repas de noces, donc c'est aussi un repas, c'est toujours satisfaisant. Et puis les noces de l'agneau. Et donc, qui rappelle aussi le fait qu'il s'est donné pour son épouse aussi, le Christ. Donc, c'est un agneau. Je vous ai mis un petit passage du père Jacques Benoît. Ainsi, il est en lui-même celui qui peut parfaitement se donner en tant qu'homme Dieu et à son père et aux hommes. Donc, il se donne à son père, mais il se donne aussi aux hommes qui ne le refusent pas. Il y a cette idée de liberté de l'homme et tout aussi bien les recevoir. Tout en étant radicalement différent de tous et de chacun, il est ainsi capable pour l'éternité de ne faire qu'un avec tous et chacun. Donc quand dans Jean, Jésus disait pour prendre, je reviendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi. Voilà, c'est cette même idée-là. Donc il se fait semblable à nous pour qu'on puisse retrouver le semblable à lui, en fait. Donc il se fait capable d'être avec tous et chacun. La cohérence exigée par l'intelligence est à trouver à partir de cette logique. Il ne s'agit pas seulement de celle du monde matériel dans lequel les hommes sont enracinés, il s'agit de celle du monde des parfaites relations personnelles auxquelles ils sont invités à participer. Alors, toute la thématique, c'est vraiment une question de relation. Donc, tout est, non pas dans le matériel ou même dans le royaume, c'est une question d'être avec le Seigneur, de le choisir, et du coup de retrouver quelque chose des relations personnelles et donc d'être divinisé à l'image de la Trinité et des relations au sein de la Sainte Trinité. Cette logique de l'amour explicite la promesse du Seigneur d'être présent là où seraient réunis en son nom ses disciples, et donc éminemment dans l'Église, qu'il veut resplendissante comme une épouse parée pour son mari. Je vous ai remis la phrase Apocalypse 22, donc la fin de l'Apocalypse. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen, viens, Seigneur Jésus. » Donc, qui est notre espérance et notre attente. Et puis, je conclue avec Marie qui peut peut-être nous aider à vivre ce temps d'attente. Comment attendre Jésus et à la fois comment vivre de la relation avec Jésus puisqu'il est là et c'est déjà là et pas encore. Qu'à la fois dans nos communions sacramentelles, mais aussi dans notre rencontre personnelle, et que ce soit notre jugement particulier ou à son retour à la fin du monde. Marie est la femme de l'espérance, qui, samedi saint, était peut-être l'unique personne de l'Église qui espérait la résurrection et qui était fidèle. Nous apprenons à vivre du désir de ces rencontres et à nous y préparer d'un cœur ardent. Avec Marie, dans son Assomption, nous pouvons approcher le Christ glorieux. Nul plus qu'elle n'a suivi le Christ et n'a été associée à sa mission. Comment n'aurait-elle pas été unie tout de suite à la gloire de son Fils? Sa vie et sa mission trouvent leur aboutissement dans sa glorification avec le Christ dès la fin de sa vie. Et puis Jean-Paul II, dans son encyclique sur la Mère du Rédempteur, dit « Si en tant que mère et vierge, elle était unie au Christ de façon singulière lors de sa première venue, par sa continuelle coopération avec lui, elle le sera aussi dans l'attente de sa seconde venue. Rachetée de façon suréminente en considération des mérites de son Fils, elle a aussi ce rôle propre à la mère de médiatrice de clémence lors de sa venue définitive. » Lorsque tous ceux qui sont en Christ revivront et que le dernier ennemi détruit, ce sera la mort. On peut penser, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'apparitions de la Vierge Marie. C'est quelque part, elle est une façon aussi de nous préparer à la suite et de nous faire attendre et quelque part de coopérer à notre attente de la seconde venue du Seigneur. Voilà.